franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les jours fériés.
Jours ouvrables et jours fériés. Ouvrable vient de l'ancien verbe ouvrer, qui voulait dire travailler. Et férié est issu du latin feria, qui signifie jour de fête, à l'occasion duquel on ne travaille pas.
Et oui, les jours fériés coïncident avec des fêtes. Des fêtes chrétiennes, comme on le dit couramment. C'était le cas sous l'Ancien Régime, mais depuis la Révolution et sa conclusion par Napoléon, le calendrier a été fortement purgé de beaucoup de ces fêtes chrétiennes au nom de la raison et de la production. Seules demeurent quelques dates religieuses essentielles auxquelles les autorités ont ajouté des fêtes d'abord civiles. Civiles, religieuses, ces fêtes célèbrent une mémoire selon des rites bien établis. Mais évidemment, ces jours de repos possibles, la consommation de loisirs l'emporte inévitablement sur la liturgie, d'où les commentaires récurrents, les cérémonies se resserrent, le sens se perd. Mais vouloir supprimer les jours fériés, c'est les électriser à coup sûr. Tout le monde avait oublié l'origine du caractère férié du lundi de la Pentecôte, mais l'idée de le remplacer par une journée de solidarité a provoqué la levée de boucliers que l'on sait. Et revient confusément un souvenir enfoui, celui de la Saint-Lundi que les ouvriers prenaient à la barbe des autorités. L'histoire des jours fériés a au moins l'intérêt de prouver que la mémoire est chose difficile à manipuler. C'est une première leçon qu'on peut tirer du livre que vous avez, Jacqueline Lalouette, bonjour.
Bonjour, Jean.
Publié il y a peu sous le titre « Jour de fête, jour férié, fête légale » aux éditions Talendier. Jour férié et fête légale, c'est institué par les autorités. Le lundi de la Pentecôte a été par exemple institué
en 1886.
En 1886
seulement. En plein
contexte
de laïcisation de la France.
Vous êtes une grande historienne de la laïcité, c'est le moment ou jamais de le dire. Mais je voudrais qu'on commence, avant de raconter le récit des normes, en rendant hommage, enfin permettez-moi personnellement de rendre hommage, puis beaucoup d'auditeurs vont me suivre, à ce qu'on appelait naguère le Saint-Lundi.
La Saint-Lundi.
La Saint-Lundi.
On disait la Saint-Lundi.
Ah, vous voulez qu'on parle des femmes et du Saint-Lundi. On va le faire tout à l'heure. Les hommes aimaient bien la Saint-Lundi, parce que c'était une tradition issue des compagnons. Elle était détachée du calendrier chrétien. Elle était indifférente aux décisions politiques. Elle pouvait mener tout droit au cabaret.
J'ai un cousin qui est ouvrier à Reims. Et là, l'habitude, c'est de travailler le dimanche et de chômer le lundi.
Avouez, monsieur Lantier, que vous aussi vous aimez la Saint-Lundi.
C'est l'habitude. L'ouvrier consacre le dimanche à sa famille et le lundi à ses copains.
D'après mon enquête, l'habitude de chômer le lundi est à peu près générale à Paris chez un grand nombre d'ouvriers. Ceux qui fabriquent les appareils à gaz, par exemple, les mécaniciens. Mais chez les fondeurs de bronze, il n'y a qu'un tiers qui chôme le lundi.
D'après ce que me disait mon père, la chose n'est pas nouvelle. Déjà, du temps de mon grand-père, on chômait le lundi à Paris.
Ah bon? Et les patrons, qu'est-ce qu'ils en disent?
Oh, bah ça dépend des patrons. Le petit patron est d'accord, parce qu'il a souvent été ouvrier lui-même à ses débuts. Et les grands patrons, c'est pas la même chose. Il y en a qui menacent de renvoyer les ouvriers qui fêtent la Saint-Lundi. Il y en a qui donnent des amendes.
Comment, à leur profit?
Non, ces amendes-là sont versées à une caisse de secours pour les ouvriers.
Et le résultat?
Oh, bah, il faut bien reconnaître que ceux qui fêtent la Saint-Lundi sont en diminution.
Voilà, c'était une tribune de l'histoire de 1978 qui suivait de très près le grand livre de Georges Duvaux consacré à la vie ouvrière sous le Second Empire. Sous le Second Empire, la Saint-Lundi, je féminise, était encore en vigueur.
Oui, elle est même restée un certain temps au-delà. Alors, vous aviez l'air d'apprécier la Saint-Lundi. Je pense qu'elle rendait les hommes heureux. Ils y trouvaient beaucoup de plaisir au cabaret, comme vous disiez. L'absinthe et autres torboyaux coulaient à flot. Pour les femmes, qui en général souffraient beaucoup de l'alcoolisme et de l'alcoolisation de leur mari ou de leur compagnon, la Saint-Lundi devait être moins drôle. Je pense qu'il y a plus d'une femme d'ouvrier qui a pris quelques mauvais coups ou son lot d'injures au soir de la Saint-Lundi.
Oui, mais on disait que la Saint-Lundi, c'était le privilège des sublimes, c'est-à-dire des ouvriers irremplaçables qui étaient capables d'imposer à leur patron, peut-être aussi à leur femme, leur spécificité.
Oui, les sublimes de Denis Poulos, si vous voulez mon avis, c'était de sacrés oiseaux.
Ah, bon, alors vous êtes une partisane, Jacqueline Lallouette, de la norme.
Non, c'est pas ça, mais je veux bien que les ouvriers aient chômé le lundi. C'était très bien pour eux. Et effectivement, c'est une manière d'affirmer leur indépendance par rapport au patron. Mais je dis que la famille trinquait, vous savez. Les parents boivent, les enfants trinquent.
Et puis les autorités
les hommes
doivent
boivent, les femmes trinquent.
Décider se mettre derrière le comptoir pour qu'il y ait un peu d'ordre. On a choisi de commencer cette histoire un petit peu comme dans votre livre qui est paru en 2010 chez Talendier, par l'époque d'après la Révolution. La Révolution introduit la raison, la norme, la centralisation au nom de la production, supprime beaucoup des fêtes religieuses qui étaient en usage sous l'Ancien Régime. En 1802, quand le pape et le premier consul se mettent d'accord après le concordat, il y a un texte d'application du dit concordat qui concerne les jours fériés.
Alors, qui concerne l'officialisation de 4 fêtes religieuses d'obligation. 4, c'est-à-dire un nombre infiniment moins grand que celui qui existait sous l'Ancien Régime, avant la Révolution. Le catholicisme, donc avec le Concordat, redevient la religion de la très grande majorité des Français. Il semble donc logique, dans ce contexte, de rétablir des fêtes religieuses, mais on en limite le nombre, notamment pour des raisons économiques. Donc sont gardés Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint.
Et l'Épiphanie, le 6 janvier, alors, ou la fête Dieu, par exemple,
sont reportés au dimanche suivant. Mais ça, c'est du ressort de l'Église et non pas du ressort de l'État.
Alors l'Église entend le langage d'ordre et dit comprendre que la France a besoin de travailler pour réparer ses pertes consécutives à la Révolution française. Les fêtes religieuses peuvent se voir surimposées par les autorités civiles, ça fait partie de leur pouvoir et de leur responsabilité, d'autres réjouissances. Par exemple, sous Napoléon, on en est toujours à lui, on déniche un Saint-Napoléon ?
Oui.
Ça existe, ça ?
Un Saint-Napoléon ? On l'a créé en mettant les choses au pire de manière assez fallacieuse. En voyant les choses avec moins mauvais esprit, on dira qu'il y a eu une mauvaise lecture de textes antiques et qu'à partir d'un mot « néopolis », on a imaginé qu'il y avait un... Alors on transforme avec la... on passe du grec ou du latin à l'italien, puis de l'italien au français, ça devient voilà. Napoléon.
Et on éclaire comme ça un recoin obscur de l'histoire de l'Église où gisait ce saint Napoléon.
Thermidor, 1804. La Saint-Napoléon devient fête nationale. L'empereur distribue aux invalides les premières croix de la Légion d'honneur. Les élèves de Polytechnique invités à faire une manifestation en faveur de l'institution de cette distinction s'y refusent.
Une émission de Robert Arnault. Cette fête, elle est encore célébrée, d'ailleurs, à Ajaccio, dans la baie. Là, il y a des feux d'artifice le 15 août.
Je peux même vous dire qu'elle est célébrée ailleurs qu'en Corse, puisque me trouvant il y a peut-être 3-4 ans chez un imprimeur, j'ai vu sur le comptoir, il y avait des modèles de cartes offertes aux clients potentiels, et il y avait une carte pour célébrer le 15 août dans un château de la Côte d'Or.
Donc, le 15 août, non pas l'Assomption, mais
la Saint-Napoléon. Donc, il y a un clan bonapartiste, quelque part, qui célébrait encore le 15 août.
Mais la mémoire populaire peut garder le souvenir de fêtes nationales civiles qui n'ont, dans ce cas précis de la Saint-Napoléon, que duré le temps de deux régimes, le premier et le second empire.
Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter pour la Saint-Napoléon, c'est que ça s'est effectivement, comme vous le disiez, surajouté à l'Assomption, et toujours dans le cadre, finalement, d'une économie d'un jour férié. On aurait pu la fixer, cette Saint-Napoléon, à un autre jour que le 15 août, mais ça aurait créé un jour férié supplémentaire.
Et oui, souci de production.
Voilà. Et cette fête, officiellement, effectivement, a existé sous les deux empires. Et sous le Second Empire, il y a d'ailleurs eu, entre les pouvoirs publics et un certain nombre d'évêques, des frictions, parce que l'Église trouvait que l'accent était trop mis sur la Saint-Napoléon par rapport à l'Assomption.
Les régimes suivants fragiles du XIXe siècle vont essayer de mettre au point leurs fêtes civiles à eux. La Restauration, avec la célébration de l'exécution de Louis XVI, ça ne durera que le temps de la Restauration. Mais enfin, il y a toujours, des gens qui commémorent le 21 janvier.
Oui, une commémoration aujourd'hui, plus qu'une célébration, parce que célébration, c'est plutôt quand même glorieux, louangeur, alors que là, c'était...
La monarchie de juillet, elle va commémorer...
Et les fêtes des rois.
La monarchie de juillet, elle va commémorer la mort des insurgés révolution de juillet. Bon, ça ne va pas durer au-delà de la monarchie de juillet, mais vous racontez dans votre livre qu'il y a des individus qui se rassemblent encore place de la Bastille beaucoup plus tard.
Oui, oui, les survivants des Trois Glorieuses, devenus largement octogénaires, voire nonagénaires à la fin du siècle, se réunissaient encore sur la place de la Bastille pour célébrer le souvenir de ces trois jours. Et il y avait toujours des policiers qui surveillaient. Ils étaient un petit peu les Lazare Ponticelli des Trois Glorieuses, on va dire.
1900, le dernier survivant de 1830 est mort, mais il y a encore un policier en 1903 qui dit plus rien à surveiller. Les derniers révolutionnaires sont morts. On est tranquille. Le 14 juillet ne va apparaître que beaucoup plus tard, 1880.
Parce que depuis que la Troisième République était vraiment devenue, comme l'on a dit, une république aux républicains, eh bien, ce régime était un régime sans fête. On avait célébré avant la fête des rois, on avait célébré la fête d'une révolution, comme février 48, et puis la Troisième République, elle n'avait rien à célébrer comme fête nationale. On a donc cherché un jour. Et plusieurs hypothèses ont été mises en avant. Ça aurait pu être l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'anniversaire de l'abolition des privilèges, l'anniversaire de l'établissement de la Première République. Finalement, on s'est dirigé vers le 14 juillet parce que la prise de la Bastille était déjà une sorte de mythe. Bon, le mot est peut-être contestable, mais enfin, occupait dans l'imaginaire national une place très très grande. Et donc il y a un petit problème qui se pose autour du 14 juillet, puisque les députés qui ont déposé la proposition de loi pensaient bien au 14 juillet 1789, mais comme ce jour avait soulevé de vives contestations, protestations, réprobations, et à la Chambre des députés et au Sénat, pour faire avaler la pilule, en quelque sorte, des députés ou des sénateurs républicains, notamment l'historien Henri Martin au Sénat, ont pensé surajouter le souvenir du 14 juillet 1790, fête de la Fédération, au 14 juillet 1789. Personne n'a été dupe, les royalistes ont protesté en disant que c'était un épouvantable sophisme, et les républicains les plus convaincus n'ont pas été contents du tout, et par exemple Pelletan a bien dit « mais c'est le 14 juillet 89 que l'on veut fêter et pas le 90 ».
Les seuls opposants qui sont restés longtemps au 14 juillet, ce sont les royalistes, ceux qui timbraient leur lettre avec Marianne à l'envers, oui, et qui expliquaient encore dans les années 30, au temps des Camelots du Roi, « non, non, pas le 14 juillet », les communistes qui faisaient partie eux aussi des opposants, et finit par se rallier en 1936. On va entendre Jacques Duclos à cette date-là. Et Maurras, le royaliste, n'a pas convaincu le maréchal Pétain, qu'on va entendre ensuite après Duclos. Il parlera du 14 juillet 40.
Camarades, quelle joie en ce jour de 14 juillet. de voir s'exprimer magnifiquement la véritable réconciliation française dont notre parti communiste proclamait la nécessité voici un an aujourd'hui même. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'international a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise.
Français, la journée du 14 juillet, dont la nation et l'armée ont fait jadis leur fête, restera cette année un jour férié. Je l'ai décidé pour la zone libre. Je l'ai demandé aux autorités allemandes pour la zone occupée. En pensant à nos morts, à nos prisonniers, à nos ruines, à nos espoirs, vous saurez faire de cette fête une journée de recueillement et de méditation. Votre repos ne sera troublé ni par les agitations de la rue, ni par les divertissements des spectacles.
Nous avions dans le temps des jours gras, des jours maigres, des jours ensoleillés, des jours pluvieux ou secs. Maintenant, à date fixe, pour parler petit nègre, nous avons des jours sans ou bien des jours avec. Les jours sans, on le sait, sur les autres dominent. Quand il manque ce qui manque, on se console en disant « c'est un jour sans ».
Enfin, 14 juillet, sans rassemblement, sans défilé, sans divertissement.
Fernandel, de recueillement.
Les jours sans, 1941, jour de recueillement. Il a quand même créé un jour férié supplémentaire, le maréchal.
Et le 1er mai. Oui. Fête du travail et de la réconciliation nationale. Et en disant, je tiens les promesses, même celles des autres, puisque la Troisième République n'avait pas créé le 1er mai. Et cette création du 1er mai posera d'ailleurs un problème, parce que du coup, c'est une journée qui a été marquée du sceau de Vichy, et ça a posé problème à la Quatrième République. On a attendu d'ailleurs 46, 47, 48, 46, une loi annuelle pour célébrer, pour faire du 1er mai un jour férié chômé. 47, une loi. Et en 48, on dit on va pas faire une loi tous les ans.
Dites-moi, en 1948, François Mitterrand, ministre des Anciens Combattants, dit le 8 mai, ça ne doit pas être un jour chômé. Ça peut être un jour de célébration, de la victoire. Peu de temps avant, le général de Gaulle, le chef du gouvernement provisoire, avait dit « Moi, je ne suis pas partisan du 8 mai ». Pourquoi pas plutôt le 11 novembre, le 18 juin, le 6 juin. Résultat, aujourd'hui, le 8 mai est férié.
Alors, l'histoire du 8 mai est peut-être l'histoire la plus complexe de tous les jours fériés. Alors, avec le général de Gaulle, il y avait effectivement une concurrence des mémoires. Et puis, de la libération jusqu'à 1954, malgré diverses demandes, et notamment des résistants, les réponses avaient toujours été négatives, toujours pour des raisons économiques. Il fallait reconstruire la France. Il y avait déjà trop de jours fériés, disait-on. On n'allait pas en créer un supplémentaire. Bon, c'est finalement le cas en 1954, jusqu'au retour du général de Gaulle, qui supprime le jour férié tout en maintenant des cérémonies. C'est rétabli, et puis Giscard d'Estaing entend le supprimer, c'est finalement rétabli en 81, mais à partir d'une proposition qui avait été déposée en 79.
Rétabli par Mitterrand.
Oui, mais sur une proposition déposée en 79, donc en fait c'était sous Mitterrand, mais pas l'initiative mitterrandienne. Et que va-t-il se passer maintenant qu'au mois de février 2012 a été votée une loi disant que le 11 novembre est le jour où l'on commémore tous les morts pour la France?
Vous êtes inutilement inquiète, Jacqueline Lalouette, évidemment, vous défendez les questions que vous posez dans votre livre « Jour de fête chez Talendier ». Le 8 mai a été sauvé par toutes les initiatives en province de Nicolas Sarkozy, puis il permet le rassemblement du sortant et de l'entrant. Quant au 11 novembre, avec 2014, 2015, 2016, 2017, 2018...
Ah ben là, le 11 novembre ne risque rien avec le centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale.
D'inquiétude. Increvable jour férié.
marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ce n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche d'aller retrouver Bibi. On a mis sur la porte avis, avis aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi.
Le nouvel exode routier que vient de connaître le week-end prolongé de Pentecôte met encore une fois en relief l'importance de ce fléau national qui est devenu la route aux heures de pointe. Les statistiques prouvent formellement qu'un tiers au moins sont dus à l'alcoolisme des conducteurs. Et l'alcoolisme dans ce cas n'est pas synonyme d'ivresse, mais simplement d'une faible imbibation qui diminue les réflexes du chauffeur, souvent sans qu'il s'en doute. Un accident sur trois au moins pourrait donc être évité si chaque automobiliste s'habituait à refuser toute boisson alcoolisée avant de prendre la route et tant qu'il reste à son volant.
Le week-end de la Pentecôte était l'un des plus meurtriers de l'année. D'ailleurs, les chrétiens qui n'accordaient plus d'importance liturgique au week-end de la Pentecôte depuis le Concile Vatican II, il y a 50 ans, avaient l'habitude de dire « Notre fête, elle est écrabouillée par le week-end ». Elle n'est pas défendue, cette conception du jour férié du lundi de la Pentecôte en 2003, par l'Église, quand Jean-Pierre Raffarin a soudain une idée. Vous savez, Jacqueline Lalouette, vous qui connaissez bien l'histoire de l'Église, autrefois, dans le plafond de certaines églises, il y avait une trappe qu'on ouvrait le jour de la Pentecôte, et puis il y avait l'Esprit-Saint qui descendait. Alors il est tombé sur Jean-Pierre Raffarin, qui a dit...
Et qui a dit qu'après l'hécatombe qui avait... C'était traduite par la mort de 15 000 personnes âgées pendant la canicule de l'été, eh bien, 2003. On allait créer une journée de solidarité nationale. Les travailleurs feraient cadeau, en quelque sorte, d'une journée de travail à l'État, et les patrons paieraient une taxe de 0,3%, je crois, sur l'ensemble de la correspondant à l'ensemble de la masse salariale. Alors, effectivement, l'Église, au départ, me dit pour nous, ce n'est pas un problème. Cette première octave de la fête de la Pentecôte, nous ne la fêtons plus depuis le Concile. Mais assez rapidement, quand même, les évêques se mettent au diapason, enfin, ou réagissent exactement de la même manière que des patrons de fédérations sportives, que des animateurs de grandes fêtes comme la Feria de Nîmes ou autres, en disant, mais pour nous, c'est un week-end important, des retraites, des week-ends de rencontres, donc il faut préserver ce lundi.
Opposition religieuse qui finit par s'affirmer à demi, opposition sociétale qui s'affirme très fort, et à l'Assemblée nationale, nous sommes ici en 2005, Jean-Marc Ayrault n'est pas Premier ministre et à l'époque président du groupe socialiste. Le tollé est organisé contre Jean-Pierre Raffarin.
Je comprends le désarroi des députés de la majorité. Je comprends l'incapacité qu'ils ont à répondre dans chacune de leurs circonscriptions au mécontentement, y compris de ceux qui ont voté pour eux. Ayrault. Alors, Monsieur le Premier ministre, la sagesse serait aujourd'hui de retirer cette mesure.
La majorité a eu le courage de mobiliser l'ensemble du pays pour que nous puissions dégager les moyens financiers pour
Monsieur
pouvoir
Bonrepos,
aider
vous.
Les personnes âgées.
Monsieur Bonrepos.
Et alors, Monsieur Ayrault, quand je vois votre nom sur cette pétition de 100 députés qui soutiennent une journée de solidarité, c'était publié dans l'hebdomadaire La Vie, vous signez des pétitions et aujourd'hui, vous n'assumez pas votre signature.
Le député socialiste qui est tensé par le président de l'Assemblée, ça ne s'invente pas, s'appelle Augustin Bonrepos.
Bon repos. Mais dites-moi, vous parliez de contestation d'ordre sociétal, il faut parler à ce moment-là d'un comité qui a été très puissant, le CAL, le comité des amis du lundi, qui a rassemblé des gens venus de tous horizons. Et alors, ce que je voudrais dire surtout, c'est que contrairement à ce que tout le monde continue de dire, encore le Figaro récemment, depuis que le lundi de la Pentecôte est redevenu jour férié, mais il n'a jamais cessé de l'être. Tous les codes du travail 2005, 2007, 2006, 2007, 2008 ont le 1er mai dans la liste des jours fériés. Puisque le 1er mai, pardon, le lundi de la Pentecôte, dans la liste des jours fériés, puisque ce jour était fixé par défaut. Voilà. Donc,
Il faut lire aussi le code du travail. D'ailleurs, le fait qu'un certain flou s'installe, que les journées de solidarité demeurent, enfin je dis les journées, il n'y en a encore qu'une pour l'instant, mais qu'elles ne soient plus fixées à un jour fixe, ça nous amène peu à peu à avoir recours aux magistrats qui va consulter et le code du travail et les textes les plus divers. C'est ça la rançon du système du jour férié ou du jour de solidarité à la carte.
Sauf qu'elle n'est pas obligatoirement fixée pour toute une journée. Elle peut être scindée en mini-temps, comme c'est le cas à la SNCF, par exemple.
Oui, le président de la SNCF de l'époque, M. Gallois, avait minuté ça avec la plus grande précision. Au bout de la logique du choix à la carte, chacun peut offrir ses services quand il le veut.
1 minute et 52 secondes de plus par jour.
Ça, c'était M. Gallois. Quand il le veut, à qui le veut. Et au bout de cette logique, il peut y avoir d'ailleurs une banalisation des dimanches et des jours fériés au nom de la liberté des individus. Mais quand Carrefour ouvre à Quimper à la Toussaint 2010, c'est pas Monsieur Carrefour qui ouvre comme ouvrirait un boucher ou un boulanger. Ce sont des employés qui sont désignés et qui aimeraient faire autrement.
Alors moi je viens travailler au lieu d'aller au cimetière.
Travailler un jour férié, elle s'en serait bien passée, tout comme trois de ses collègues. Pour pallier le manque de volontaires, leur chef de service les a inscrites au planning des caisses. Arbitraire, selon Michel Laurent, délégué du personnel.
Le 1er novembre, c'est un jour particulier. On peut comprendre que la direction veuille ouvrir par rapport à la concurrence, parce qu'on a quand même Leclerc et Géant, mais maintenant qu'ils respectent au moins le choix des salariés.
Une semaine après l'annonce, les modalités de désignation de ces caissières restent floues. Guy Le Goec, directeur du magasin.
Ah bah, ils ont été choisis par rapport au fait qu'ils n'ont peut-être jamais travaillé le jour férié de cette année. Il n'y a pas eu de critères spécifiques.
Donc ce n'était pas un tirage au sort.
Ah non, il n'y a pas eu de tirage au sort. Non.
C'était pourtant une option acceptable pour les salariés désignés. Pour elles, l'heure est maintenant au service minimum.
Je ne prendrai pas la carte de fidélité, je prendrai mon temps entre chaque client. Ça va être très cool.
Alors la complexité, elle tient aussi, Jacqueline Lalouette, au découpage du territoire, c'est-à-dire des dérogations sont multipliées pour un certain nombre de zones de chalandise qui sont jugées privilégiées et qui peuvent donc voir des magasins ouverts dimanche et jours fériés.
Dimanche et jours fériés, oui, en effet. Et,
et la centralisatrice, clarificatrice que vous êtes est sceptique.
Non, je suis pas sceptique sur ce point-là, ni sur la question de l'Alsace-Moselle, qui a aussi sa propre spécificité. Je serais beaucoup plus sceptique, vous y avez fait, je pense, allusion, en parlant des individus, je suis beaucoup plus sceptique sur les demandes d'un certain nombre de groupements ou d'individus qui aimeraient qu'il n'y eût plus de jours fériés fixés de manière nationale, mais que l'on dise, voilà, il y a 11 jours fériés en France, eh bien, chacun les prend quand il veut. Alors, d'une part, ça serait une source de désorganisation assez extraordinaire. D'autre part, ça serait vraiment la fin de tout lien, de tout ciment à caractère national, si on parle de fêtes civiques ou de souvenirs militaires, ou spirituels, si on parle de fêtes religieuses. Là, c'est vraiment l'éclatement d'une société dont les différents membres ne trouvent pas de sujet suffisamment puissant pour être réunis dans une commémoration commune ou un souvenir commun.
Méditation sur très le lundi de la Pentecôte, un peu triste, de Jacqueline Lallouette, qui a publié chez Talendier, jour de fête, jour férié et fête légale. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Cédric Lalanne et Ronan Mahé.